VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriac au micro, en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du lundi 16 janvier 2018. À la une ce soir, en République centrafricaine, des affrontements opposent depuis plusieurs jours des groupes armés, malgré la présence des casques bleus. Grogne sociale au Bénin, l'éducation, la justice et la santé sont touchés. Des centaines de membres repentis de Boko Haram ont été libérés au Nigeria. Et à Khartoum, la ville a été le théâtre d'une grande manifestation contre la hausse des prix. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Violence dans l'extrême nord du Cameroun. 4 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans des attaques imputées au groupe djihadiste Boko Haram contre des villages. Boko Haram a mené des attaques simultanées dans 3 villages du canton de Tourou, situé vers la frontière du Nigeria, affirmé sous couvert d'anonymat, un responsable sécuritaire de la zone cité par l'AFP. 4 personnes sont mortes calcinées dans ces villages, les assaillants ayant incendié une centaine de maisons, a-t-il ajouté. L'armée nigériane affirme par ailleurs avoir libéré 244 membres présumés de Boko Haram dans le nord-est du pays. Selon un porte-parole militaire, les suspects ont renié leur appartenance au groupe djihadiste. Jacques Aristide.
Ce sont 56 femmes, 118 hommes adultes, 19 adolescents et 51 enfants qui ont été remises au gouvernement de l'État de Borno. Leur libération s'inscrit dans le cadre de la célébration à Maïdougouri de la journée du souvenir des forces armées. D'après le général Roger Nicolas, qui est à la tête de l'opération anti-Boko Haram, cette remise en liberté a été approuvée par le chef d'état-major des armées, le général Tukur Bouraté. Le général Nicolas indique dans un communiqué que ses membres repentis de Boko Haram ont été suivis de très près et leur repentance confirmée. Le gouverneur de l'État de Borno a félicité l'armée pour ses efforts visant à déradicaliser, dit-il, des insurgés de Boko Haram. Kashim Chetima indique s'être longuement entretenu avec certains des suspects qui lui ont fait part de leur hâte de réintégrer la société et de se conformer aux lois. La guerre contre Boko Haram a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés depuis le début de l'insurrection en 2009.
Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, des combats ont opposé l'armée congolaise à des milices près du lac Tanganyika, d'après des sources militaires. Les rebelles Yakutumba, du nom d'un ex-officier de l'armée congolaise qui a rejoint la rébellion, ont attaqué mardi à l'aube une position d'un régiment près de Baraka, sur la rive du lac, dans la province du Sud-Kivu, selon une source militaire consultée par un correspondant de l'AFP. Le bilan est de 4 morts, dont 3 assaillants et un militaire, a-t-on ajouté de même source. On ne donne pas de bilan pour le moment, étant donné que les combats vont se poursuivre. On ne donnera le bilan qu'à la fin des opérations, a indiqué le porte-parole de l'armée dans la province du Sud-Kivu, le capitaine Dieudonné Kazereka. Dans le nord-ouest de la République centrafricaine, Paoua est en proie à une grave crise alimentaire après plusieurs semaines de combats. Les déplacés sont plus nombreux que les habitants. Selon OCHA, Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU, ils sont plus de 60 000 à être arrivés en 15 jours dans la ville qui compte normalement 40 000 habitants. Il fut des affrontements entre groupes armés rivaux qui se battent pour le contrôle des checkpoints. Nous reviendrons sur la situation à Paoua en seconde partie d'émission. Au Cameroun, la plateforme pour une nouvelle république a été lancée hier. Composée de partis d'opposition et d'acteurs de la société civile, elle vise à soutenir la candidature de l'avocat Akere Muna à l'élection présidentielle prévue fin 2018. La plateforme rassemble notamment l'Union des populations du Cameroun, parti nationaliste, et le mouvement Now, une organisation créée pour le changement au Cameroun par M. Akere Muna, avocat connu pour son combat contre la corruption. Au Bénin, le collectif des organisations syndicales des travailleurs des ministères dit ne pas être concerné par le mouvement de débrayage déclenché par les centrales syndicales, mouvement qui paralyse l'éducation, le port, la justice et même la santé. Sur place, notre correspondante Ginette Fleur-Adondé.
Le collectif des travailleurs des ministères dénonce une tentative d'exploitation des problèmes spécifiques des travailleurs à des fins politiques inavouées. Il refuse de suivre ce mouvement de grève déclenché pour soutenir ceux à qui les députés ont retiré le droit de grève à travers une loi votée le 28 décembre 2017. Il dénonce la violation flagrante par les centrales syndicales de la loi qui régit le droit de grève au Bénin.
Les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés, à caractère essentiel, dont la cessation totale du travail porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population, sont tenus d'assurer un service minimum obligatoire.
Malgré cet appel au boycott, la grève est généralement suivie dans les tribunaux, les hôpitaux publics et les écoles. Dans certaines localités du Bénin, les syndicalistes sont passés fermer les écoles qui ont ouvert leurs portes. Il faut que l'État comprenne une fois pour de bon que les centrales syndicales iront jusqu'au bout, a lancé lundi Noël Chadaré de la COSI Bénin. Pour l'heure, les regards restent désespérément tournés vers la Cour constitutionnelle qui tarde à rendre publique sa décision sur la loi qui retire le droit de grève aux travailleurs et contre laquelle plusieurs secteurs fonctionnent à pas de tortue ou pas du tout. De Cotonou, Ginette Le Adandé pour VOA Afrique.
Khartoum a été le théâtre d'une grande manifestation contre la hausse des prix. La police a usé de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues au cœur de Khartoum. Tout près du palais présidentiel, ils ont scandé des slogans disant « non à la faim, non au prix élevé ». La police les a dispersés à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Un responsable du parti communiste, Sidig Youssef, et d'autres manifestants ont été interpellés. La semaine dernière, des étudiants ont organisé une manif contre la vie chère près de l'université de Khartoum avant d'être chassés par la police anti-émeute. Le prix du pain a doublé après la décision du gouvernement de confier les importations de céréales au secteur privé. En 2016, le Soudan a été le théâtre d'un mouvement de protestation après la décision des autorités de réduire les subventions sur le carburant. La mesure avait entraîné une forte hausse des prix, suscitant la colère de la population.
En Afrique du Sud, la municipalité du Cap informe ses habitants qu'ils pourraient être totalement privés d'eau à partir du 29 avril. La sécheresse sévit depuis des mois dans la deuxième agglomération d'Afrique du Sud. Le Cap, qui accueille chaque année des millions de touristes, a déjà mis en place de strictes mesures de rationnement de l'eau, aussi bien dans les hôtels que pour les particuliers, pour tenter de retarder l'échéance du jour zéro ou jour sans eau.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ouverture aujourd'hui au Canada d'une rencontre entre les États-Unis et ses alliés sur la crise du nucléaire nord-coréen. La Chine et la Russie sont les grands absents, Raissa Girondin.
À l'initiative des États-Unis, une réunion sur la Corée du Nord s'est ouverte à Vancouver au Canada. Les diplomates d'une vingtaine de pays cherchent à s'entendre sur de nouvelles sanctions contre Pyongyang. La Chine et la Russie n'ont pas fait le déplacement. Cette réunion n'a ni légitimité ni représentativité, a martelé Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. De son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, estime que les Américains et leurs alliés veulent imposer leur vue sans reconnaître la réalité d'un monde multipolaire. La réunion intervient en pleine détente ces derniers jours sur la péninsule. Pyongyang et Séoul se sont rencontrés pour la première fois en 2 ans et la Corée du Nord a accepté d'envoyer chez son voisin du Sud une délégation aux prochains Jeux olympiques d'hiver.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le nombre de touristes dans le monde a augmenté de 7% en 2017 avec plus d'un milliard de personnes. La France est restée la première destination, suivie de l'Espagne qui dépasse les États-Unis. En Amérique du Nord, le Mexique et le Canada ont profité du recul des États-Unis. La reprise du tourisme en Égypte, Turquie et Tunisie a permis à l'Afrique et au Moyen-Orient de progresser. L'Égypte veut construire une méga-cité industrielle spécialisée dans le textile et l'habillement. La ville va abriter plus de 560 usines pour 2 milliards de dollars à investir sur 7 ans. Les capitaux attendus en 2020 sont estimés à 230 millions de dollars. L'Afrique du Sud devra mobiliser plus de 12 milliards de rand pour rendre gratuit l'accès à l'éducation. Le président Jacob Zuma compte le faire avec des coupes budgétaires. Son gouvernement a déjà investi 76 milliards de rand dans l'enseignement supérieur pour la nouvelle politique de gratuité de l'éducation. D'après les autorités, le pays devrait connaître un déficit budgétaire de 50 millions de rand à la fin de l'exercice budgétaire en mars prochain.
Place au sport, à mes côtés en studio, Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Match du groupe D au championnat d'Afrique des Nations au Maroc.
Les étalons du Faso face à l'Angola à Agadir, ils viennent de se séparer sur le score de 0-0. On écoute après ce match l'entraîneur du Burkina Faso, Idrissa Malo, dit saboteur.
Dans le sport, il y a une victoire, il y a une nulle, il y a une défaite. Et ici, nous sommes dans un championnat que la première journée, généralement, elle est très, très, très difficile à négocier. Mais si nous avons pu faire un nul, je pense qu'on remercie le tout puissant parce qu'on n'a pas pris de but et c'est très important pour nous pour la suite des événements. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'une équipe fait un match nul en début d'une phase finale. Il y a des équipes qui ont fait le nul en début de phase finale et après ont remporté la coupe.
Voilà Idrissa Malo, le sélectionneur du Burkina Faso. Et depuis quelques minutes, les Lions indomptables du Cameroun qui affrontent le Congo. Les Diables Rouges qui espèrent faire mieux que lors du précédent CHAN où ils avaient été éliminés au premier tour.
Hier, la Libye a débuté par une victoire.
Et la logique a été respectée à Tanger. Morgan, la Libye facilement dominée, la Guinée équatoriale 3-0. Décevant, le Nigeria, l'un des poids lourds de ce CHAN 2018, a été tenu en échec par le Rwanda 0-0 pour son entrée dans la compétition. On note Morgan que les Nigérians n'ont pas été vernis, ils ont touché le poteau à 3 reprises.
Et demain, le Maroc qui pourrait déjà se qualifier pour les quarts de finale.
Et oui, dans le groupe A, les Lions de l'Atlas devant leur public du stade Mohamed V, ils affrontent le Sili National de Guinée. Les Marocains en pleine confiance après leur succès 1-0 face avec leur succès 4-0 en ouverture contre la Mauritanie. Les Mourabitoun qui espèrent se relancer mercredi face au Soudan. Le point avec Amine Birouk au Maroc pour VOA Afrique.
Jamel Selami, le sélectionneur du Maroc, a certainement coché le nom de la Guinée sur la feuille de route qui doit mener les Lions de l'Atlas vers le prochain tour du CHAN 2018. 4 jours après avoir dominé la Mauritanie en ouverture, les Marocains ont l'obligation ce mercredi de l'emporter devant le Sili National pour s'assurer le sésame des quarts de finale. Pour cela, ils devront sortir le grand jeu face à un adversaire dos au mur. En effet, la Guinée s'est inclinée d'entrée devant le Soudan, 1-2, et n'a plus droit à l'erreur. Les hommes de la paix Bangoura devront pour cela se montrer plus rigoureux en défense et plus efficaces en attaque. Et surtout, résister à des rivaux qui joueront devant leur public. Ils seront d'ailleurs près de 40 000 supporters au complexe Mohamed V de Casablanca. Un élément que Jamel Selami prendra certainement en compte dans sa feuille de route. Depuis Agadir au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Et côté guinéen, on espère montrer un autre visage que contre le Soudan. C'est ce qu'explique ce soir le sélectionneur de la Guinée, Lape Bangoura.
Je crois à partir de là, on a eu le temps de corriger nos quelques faiblesses, surtout sur le plan défensif, on va revoir. Et j'ai dit quelque part, on n'a pas été réaliste à ce match. Sinon, je crois que ce n'était pas le résultat, la logique de ce résultat. Après, on a vu le Maroc jouer, nous tiendrons compte avec tous les avantages qu'il a, peut-être du public, les atouts peut-être de préparation. Mais je pense qu'on se préparer mentalement et puis nous viendrons très solides et puis sans complexe.
Voilà Lape Bangoura, le sélectionneur de la Guinée.
Cyclisme, Tropical Amissa Bongo.
L'Australien Brenton Jones de l'équipe Delco a remporté la deuxième étape courue entre Ndende et Fugamo au terme d'un sprint très disputé après 175 km. Jones est le premier coureur australien à remporter une étape sur la Tropical Amissa Bongo et l'Allemand Lucas Kastersen de l'équipe Bike Aid, vainqueur surprise hier de la première étape. Il a terminé troisième et conserve le maillot jaune. La troisième étape, c'est demain. Le peloton ira de Fugamo à Lambaréné, une étape longue de 114 km.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
La victoire de Chicago face à Miami, 119 à 111. Washington qui a chuté contre Milwaukee, 95 à 104. Détroit battu par Charlotte, 107 à 118. Et puis les Knicks de New York qui battent les Nets de Brooklyn, 119 à 104. Enfin, défaite de San Antonio devant Atlanta, 99 à 102.
Merci Nicolas. Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. En Centrafrique, la population de Paoua et ses environs vit toujours dans la psychose en raison des affrontements qui opposent depuis plusieurs jours différents groupes armés, et ce, malgré la présence des forces onusiennes de la MINUSCA. Félix Yepassi-Zimbro a joint sur place un habitant qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité.
À Bukanga, après l'exaction des forces de Sileka et les RG à Paoua, les Sileka sont maintenant en mouvement vers De Gaulle, vers Kouy, pour rejoindre dans les 3R. Ce qui fait qu'on ne connaît pas encore les intentions, mais ils sont toujours en déportation vers De Gaulle, précisément à Kouy, pour rejoindre dans les 3R. Que toute la nuit, la ville est un peu paniquée. Il y a les mouvements des populations qui fuient dans la brousse, qui dorment vraiment dans une situation vraiment critique. Tous les jours, dans la journée, la nuit, vraiment, la population sont en mouvement. Cela est dû à ces mouvements des Sileka qui se dirigent en ce moment vers les 3R.
À ces groupes armés, est-ce qu'ils se battent entre eux en ce moment?
Ce sont les Sileka qui ont combattu la semaine passée avec les RJ du général Sahou. Donc, on ne connaît pas trop ce qui s'est passé là-bas, mais pour le moment, ils se dirigent vers De Gaulle pour rejoindre les 3R.
Quel est le bilan? Y a-t-il eu des morts dans ces affrontements?
Exactement, on ne connaît pas encore le bilan, mais j'ai appris qu'il y a les incendies des maisons, il y a des tueries. Vraiment, il y a des cadavres partout au village qui sont à l'entour de Paoua.
Y a-t-il la présence de la MINUSCA dans la région?
Oui, à Paoua, il y a la présence de la MINUSCA qui est là. À Bukaranga aussi, il y a la présence de la MINUSCA. Mais à De Gaulle, ils ne sont pas là à De Gaulle. C'est le général Sili qui, avec ses tours de travail, qui sont directement à De Gaulle.
Et que font-ils ces militaires de la MINUSCA?
Ils sont toujours inactifs, surtout ce qui se passe à Paoua. Là, vraiment, les casques sont inactifs sur le terrain. Ils n'ont pas pu protéger la population. Donc, c'est ce que je voudrais vous confirmer pour ce moment.
Y a-t-il un appel pour nos autorités?
Vraiment, si on compte sur les forces onusiennes, vraiment, le pays va tomber dans le chaos. Si c'est bien de réarmer les fatahs, comme ça, ils vont prendre la destinée du pays pour nous chercher ces malfrats. Parce qu'en ce moment que je vous parle, si vous voulez vraiment la situation de la population vers Paoua dans la brousse, tout ça, c'est lamentable. Parce que vraiment inhumain. Si on pourrait réarmer les fatahs, il peut vraiment désarmer ces gens-là et tuer les pays de la terre en fait.
Voilà, c'est un habitant de Bokaranga, dans le nord-ouest du Centrafrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, Zoom sur le championnat d'Afrique des nations de football, plus connu comme le CHAN, la compétition qui se dispute au Maroc du 13 janvier au 4 février, met en vedette des joueurs n'évoluant que dans des clubs africains. Quelle équipe a le plus de chances de décrocher le trophée 2018? Mais au fait, pourquoi le CHAN a été créé en 2009 par la Confédération africaine de football? Parvient-il à promouvoir et développer le foot africain? Les championnats locaux en tirent-ils profit? Et est-il temps de lancer un CHAN féminin? Washington Forum, ce jeudi à 19h08.
Au Tchad, en application de la loi des finances 2018, des augmentations de prix ont été constatées par les populations. Le prix de l'essence, du gaz butane, du gazole et autres ont connu une hausse avec des répercussions sur le coût de la vie, déjà jugé cher. Cette hausse survient après la renonciation du gouvernement de baisser les salaires et suscite indignation et consternation dans le pays. Yacouba Ouédraogo a joint Michel Barka, président de l'Union des syndicats du Tchad.
Ce n'est pas la première fois. Le gouvernement, l'année dernière, pour des raisons de crise financière, dit-il, avait pris des mesures. Elles sont toutes impopulaires, mais finalement, qui n'ont donné aucun résultat. Cette année, il nous est arrivé encore une fois, une nouvelle surprise, des augmentations tous azimuts, des prix des denrées, des prix du carburant, augmentation des impôts, des taxes d'habitation.
Est-ce que vous pouvez nous donner des données chiffrées de ces augmentations-là? Et c'est quel secteur ça concerne?
L'impôt concerne les deux secteurs privés comme publics. C'est consacré dans la loi de finances, ça n'épargne personne et tous les secteurs sont concernés. La taxe d'augmentation du prix du carburant, par exemple, c'est toute la population. Chez nous, le moulin est dans tous les quartiers avec l'augmentation du prix du carburant, avec l'augmentation des taxes sur le moulin lui-même. Alors, imaginez ce que ça fait comme répercussion du coût au niveau consommateur. La loi de finances vient juste d'être rendue publique. Nous sommes en train justement de faire un travail pour déterminer exactement ce que ça représente en pourcentage, la baisse de notre pouvoir d'achat.
Comment réagissent les populations face à ces nouvelles augmentations, puisque qui dit augmentation d'impôts parle bien sûr d'augmentation des denrées alimentaires et autres?
Pour cette fois-ci, unanimement, on se rend compte que les gens ont été touchés. La population est en désaccord total avec toutes les mesures qui sont prises et ça se lit dans tous les visages, dans les rues, dans les journaux et partout. Les gens expriment leur ras-le-bol du comportement du gouvernement.
Cette hausse des impôts, vous l'avez dit, est prévue dans la nouvelle loi de finances 2018 et donc une loi normalement qui a été adoptée en décembre, cela ne devait pas surprendre.
C'est même une histoire assez bizarre parce que par rapport aux abattements, par exemple, vous ne trouverez pas cela indiqué clairement dans la loi de finances. Mais pour les impôts, au moins, c'est clairement indiqué.
Pourquoi n'avoir pas combattu l'adoption de cette loi de finances-là et d'attendre qu'elle soit appliquée pour réagir?
Ça, c'est une très bonne question. La loi de finances ne se discute pas comme ailleurs où il y a des réunions, il y a des discussions budgétaires qui font participer les gens. De manière un peu populaire, avec des réactions pour arranger tout avant d'être publié. Chez nous, c'est peut-être en quelques heures au niveau de l'Assemblée que la loi des finances est adoptée. Et très souvent, d'ailleurs, à l'insu de tout le monde, c'est déplorable, mais c'est comme ça que ça se passe.
L'opposition se trouve à l'Assemblée, et donc, à défaut de pouvoir empêcher la loi de finances de passer, elle pourrait au moins publier son contenu avant adoption.
Les députés ne la discutent pas en deux jours. Cette année, par exemple, c'est en quatre heures que la loi des finances a été adoptée. Vous ne pouvez pas avoir le temps de regarder et réagir.
Que comptez-vous faire maintenant?
Nous n'avons pas accepté qu'on nous applique des augmentations des impôts qui vont encore considérablement réduire notre revenu. Nous préparons à dire non au gouvernement.
Et Michel Barca, joint à N'Djamena.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, l'Institut ophtalmologique d'Obac soigne depuis mars 2017 les maladies de la vue de nombreux patients du pays, mais aussi de la sous-région. Appelé l'hôpital des yeux d'Obac, l'Institut est situé à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale politique, et il est opérationnel. Correspondance à Yaoundé d'Emmanuel Juntap, qui s'est rendu sur place.
Il y a 11 ans, Jérôme Abada perdait totalement la vue. Âgé aujourd'hui de 84 ans, Jérôme savoure ce qu'il appelle lui-même le retour à la vie après une opération réussie de son œil gauche. Avec quelques larmes d'émotion, dans une salle des patients internés de l'hôpital, Jérôme Abada raconte à VOA Afrique.
Le jeune docteur même qui m'avait opéré les yeux, je ne peux pas le reconnaître parce que je ne voyais pas. Deux jours après, on a enlevé le pansement. Un prodige. Je vois encore la lumière du jour. J'étais déjà contre Dieu. Que pourquoi, à mon âge, il faut abréger ma souffrance, que je meure. Mais Dieu a envoyé ma famille. Que voici, hôpital des yeux.
L'hôpital des yeux a aussi ouvert ses portes à Anastasie, une étudiante atteinte de myopie, qui répond ce jour à un rendez-vous avec l'ophtalmologiste.
Je ne vois pas bien de loin, mais je vois bien de près. Et c'est de bouche à oreille. Des aînés, des amis qui sont arrivés ici, ils m'ont demandé de passer pour faire un bilan de mes yeux.
Depuis le 29 mars 2017, date des premiers soins dans cet hôpital, les malades affluent de tout horizon. L'hôpital doit surtout sa réputation grâce aux opérations réussies de la cataracte, l'une des principales causes de la cécité au Cameroun. Dr Henry Koumbé, médecin-chef de l'hôpital des yeux d'Obac.
Nous avons pu effectuer 591 opérations de la cataracte. Cette année-ci, on devrait pouvoir aller au-delà de 2500. Nous voulons aller davantage dans des endroits reculés, pouvoir servir les personnes défavorisées pour qu'elles puissent avoir accès à la chirurgie de la cataracte.
L'hôpital bénéficie aussi du soutien de l'agence publique américaine Overseas Private Investment Corporation. David Boyigen, vice-président de la dite agence, en visite dans les locaux.
Cet institut n'est pas seulement un symbole de la vie pour les malades de la vue. Il est aussi le symbole d'une bonne coopération entre le gouvernement camerounais et américain. Cet institut en construction est la preuve que l'on peut mettre ensemble les fonds privés issus des organisations non gouvernementales et les fonds publics pour la résolution des questions de santé dans le monde.
L'hôpital des yeux d'Aubac offre plusieurs services à des coûts sociaux, parmi lesquels l'ophtalmologie générale, la correction de la vue au laser, les soins spécifiques pour les maladies de la vue affectant les enfants ou encore les conseils en lunetterie et optique. Emmanuel Jeltap, de retour de BAC, VOA Afrique.
Voilà, du zouk rétro, comme on dit chez moi aux Antilles, c'est Tendresse Matinale, Annick et Jean-Claude. C'est la fin de cette édition, à la mise en onde Georges Léonard Sagno. Présentation Morgane Guiriec, on continue la conversation sur Facebook. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La liberté religieuse est un droit humain internationalement reconnu comme tel dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, le Pacte international des Nations unies sur les droits civils et politiques, les accords d'Helsinki et les nombreux engagements et déclarations. La promotion de la liberté religieuse est un élément central de la politique étrangère des États-Unis. Les pays qui protègent la liberté de religion sont plus stables, économiquement prospères et pacifiques. Néanmoins, dans de trop nombreux endroits du monde, des personnes continuent d'être persécutées, injustement poursuivies ou emprisonnées pour avoir exercé leur droit à la liberté de religion ou de conviction. Aujourd'hui, un certain nombre de gouvernements empiètent sur la capacité des individus à adopter, changer ou renoncer à leur religion ou croyance, prier selon leur religion ou leur croyance, ou être libre de pratiquer une religion ou une conviction particulière, a dit la porte-parole du département d'État, Heather Nauer, dans une déclaration écrite. Conformément à la loi de 1998 sur la liberté religieuse dans le monde, le secrétaire d'État désigne chaque année les gouvernements qui ont commis ou toléré des violations systématiques, continues ou flagrantes de la liberté religieuse comme des pays particulièrement préoccupants. À la fin de décembre, le secrétaire d'État Rex Tillerson a à nouveau désigné la Birmanie, la Chine, l'Érythrée, l'Iran, la Corée du Nord, le Soudan, l'Arabie Saoudite, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan comme des États particulièrement préoccupants pour avoir commis ou toléré des violations particulièrement graves de la liberté religieuse. Le secrétaire d'État a également placé le Pakistan sur la liste des surveillances spéciales pour les violations graves de la liberté religieuse. Depuis les débuts, l'Amérique a été un pays chérissant de la liberté des cultes. Malheureusement, beaucoup de gens dans le monde n'apprécient pas la liberté, a déclaré le président Donald Trump. Nous prions pour obtenir la force et la sagesse nécessaires à la réalisation d'un avenir meilleur, un monde où les personnes de bonne volonté de toutes les confessions, chrétiens et musulmans, juifs et hindous, peuvent suivre leur cœur et prier selon leur conscience.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.